Les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour si vous nous rejoignez sur REC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie aujourd'hui d'Evelyne Moser. Evelyne, bonjour, comment ça va ?
Bonjour, ça va très bien.
Bien arrivé à Chauvigny ?
Oui, cité joyeuse, ensoleillée ce matin.
Exactement, je le dis souvent, pas facile de se garer à Chauvigny, surtout un jour de marché. On est en direct et vous avez pu vous garer pas très loin, je pense.
Oui,
ça a été quand même, puisque vous êtes venue avec des instruments de musique.
Et oui, je suis venue avec quelques-uns de mes instruments qui sont pour la plupart des copies d'instruments qui ont existé au Moyen-Âge. Et j'ai aussi amené un violon baroque.
Oh, dites-moi, c'est vrai que vous êtes musicienne, donc médiévale, on va dire. Et vous êtes conteuse aussi, on va en parler tout à l'heure. Conteuse et en même temps, vous faites marionnettiste.
Oui, cela m'arrive aussi.
Voilà, on a tout un programme de ce côté-là. Je voudrais remercier, tiens, pendant qu'on y est, nos amis de l'abbaye de Saint-Savin, Jean-Luc Dorchy, qui est le président de l'EPCC, l'organisme qui gère l'abbaye de Saint-Savin et la Vallée des Fresques. Remercier aussi Isabelle Soulard qui est historienne, qui s'occupe pas mal du secteur, que ce soit de l'abbaye de Saint-Savin, mais aussi du Triangle d'Or du Poitou, vous connaissez bien, au moins pour ce qui concerne Isabelle. Vous intervenez régulièrement à Saint-Savin, hein.
Oui, j'ai cette grande chance et cet honneur. Alors ça a commencé l'été dernier, donc on a monté des visites en musique, en duo avec un ou une guide de l'abbaye. Et on se promène dans différents lieux de l'abbaye et on entend de la musique qui a un lien soit avec un personnage important de l'histoire de l'abbaye, soit avec l'architecture, soit avec l'iconographie. Et on va du 19e au 9e.
Vous étiez dans l'ensemble de l'abbaye, donc que ce soit les cellules des moines ou la fresque
Non, on ne va pas dans les cellules des moines, mais on va dans le réfectoire. On s'intéresse aussi aux fondations du réfectoire qui sont la salle capitulaire, l'ancienne salle du 13e. Ensuite, on se rend dans l'abbatiale, où il y a beaucoup à dire et à voir et à entendre. Et puis, on va aussi sur la tribune.
D'accord.
Et là, l'acoustique est absolument extraordinaire. Entendu d'en bas et aussi quand on est sur la tribune elle-même.
Certainement, on se rapproche un peu plus de l'Arche de Noé. J'en parle de l'Arche de Noé parce qu'on a eu une météo un peu difficile il y a quelques jours. Vous êtes aussi créatrice d'un théâtre, le théâtre au Clin, au bord du Clin. Vous n'avez pas souffert de la météo
Écoutez, je n'ai jamais vu autant d'eau en 15 ans que je suis à Poitiers.
Ouais.
Mais j'ai moi-même et le théâtre, on a été épargnés. C'est juste la route qui était coupée.
Bon, c'est une bonne chose. Un petit théâtre, combien de personnes un théâtre,
45, jauge.
Voilà, un théâtre intimiste, pour quel type de représentation?
Alors, il peut y avoir des spectacles jeunes publics, des lectures, de la musique acoustique ou légèrement amplifiée, du théâtre s'il n'y a pas trop de mise en scène parce que ce n'est pas très, très grand.
Ouais.
Mais on est très proche du son, on est très proche du geste des artistes, donc c'est très agréable. Alors, heureusement, figurez-vous qu'en février, j'étais pas suffisamment libre pour organiser quelque chose parce qu'on n'aurait pas pu atteindre le théâtre avec ces histoires d'inondations.
Ouais,
mais on va se venger fin mars. Il y aura un concert de musique médiévale le samedi 28. D'ailleurs, c'est avec mes comparses, Elsa et Emmanuel. Elsa Papatanasios et Emmanuel Uto. Et puis, le lendemain matin, il y aura un spectacle jeune public qui s'appelle Des cerises pour Maryse avec un formidable marionnettiste qui s'appelle Livio Jamais qui vient des Deux-Sèvres. Et en fin de journée, on aura les révoltés du comptoir.
Dites-moi, il y a un sacré programme. Ça vous laisse très peu de temps en fait pour Saint-Savin. Vous y allez quand même régulièrement. Mais
Alors figurez-vous que j'y étais hier.
Ouais.
J'y étais trois fois en février. J'y serai en avril, en mai et à partir de juillet. Donc il faut guetter les vendredis. Ça se passe le vendredi deux fois par jour. Parfois c'est 10h, parfois c'est 12h. Ça dépend de la saison. Et 16h ou 17h30. Donc tenez-vous bien au courant du calendrier l'agenda de Saint-Savin. Parce que vous pouvez amener, par exemple, si vous êtes un habitué de la région et que vous avez des amis, de la famille, c'est l'occasion ou jamais de les emmener sur ce lieu extraordinaire.
Exactement.
Pour découvrir autrement grâce aux musiques. Et je vais aussi intervenir dans la vallée des fresques, Mont-Morillon, Saint-Germain, Saint-Laurent, si je ne me trompe pas, il y a tellement de lieux formidables.
Jouer,
aller à jouer dans la petite chapelle, vous savez, celle qui est si bien peinte au 15e siècle, c'est extraordinaire. Antigny, j'ai vu que c'était en travaux en ce moment.
Oui, tout à fait, oui.
Il y a aussi des fresques fantastiques.
Exactement, Saint-Germain, je ne sais pas si on en a parlé, mais...
Saint-Germain, j'y suis allée une fois pour la Sainte-Cécile. J'ai proposé des morceaux en lien avec l'histoire de ce lieu. On va y retourner aussi.
Exactement, oui. beaucoup de choses à voir. On en parlera tiens, d'ailleurs de la Vallée des Fresques certainement la semaine prochaine, puisqu'on fera une émission sur la Vallée de la Gartempe. La Vallée des Fresques suit la Vallée de la Gartempe.
Oui.
Et j'ai eu l'occasion avec Isabelle, dont on parlait tout à l'heure cet été, de faire une descente en canoë.
Alors, formidable.
Ça manquait un peu d'eau. Ça manquait un peu d'eau, mais c'est vrai que c'était très agréable. On est descendu donc, de Montmorillon jusqu'à Saint-Savin. Donc un instant très, très, très agréable.
C'est très beau.
Ah oui, magnifique. Un magnifique endroit. Que vous animez, on va dire, donc, quand vous vous déplacez sur l'abbaye de Saint-Savin. On peut trouver les dates hein, sur le site de l'abbaye de Saint-Savin. On
oui.
va sur abbayedesaint-savin.fr.
Oui.
On a toutes les dates. J'ai un numéro de téléphone aussi. Hein, c'est le 05 49 84 30 00. Le 05 49 84 30 00. Donc, pour avoir toutes les dates. Je rappelle aussi que dimanche, c'est demain. Donc, demain, pour les gens habitant Saint-Savin, l'entrée est gratuite sur justificatif.
Formidable.
C'est très bien, une belle chose. Hein, on l'avait vu. Il le faisait déjà tous les ans à l'abbaye de Saint-Savin pour les enfants du collège. Là, c'est arrivé aussi pour tous les habitants. Après tout, ce sont eux qui financent. Hein. C'est la commune qui finance l'abbaye.
J'en profite pour dire que mardi, mais ça, c'est réservé aux enfants de l'école de Saint-Savin,
oui.
périscolaire. L'APE et la municipalité organisent ma venue. Je vais faire de la musique dans l'abbatiale et je vais les emmener avec des grandes marionnettes qui ressemblent à des personnages du Moyen-Âge dans le réfectoire et je vais leur faire un spectacle, une aventure qui se passe au Moyen-Âge et après ils pourront essayer certains de mes instruments.
Ah oui.
Ça c'est mardi 3 mars, mais c'est privé. Mais il faut quand même dire que c'est une superbe initiative de la part de l'APE et de la municipalité.
Exactement.
Pour
oui.
qu'ils puissent vivre leur lieu qui est quand même incomparable. Ils habitent dans un endroit extraordinaire et qu'ils puissent le voir aussi sous un angle un petit peu ludique et imaginaire.
Exactement. C'est vrai que comme je le disais, c'est financé pratiquement exclusivement par la commune de Saint-Savin. C'est 800 habitants, donc eux ont au moins le mérite de faire des choses pour leur patrimoine. C'est magnifique. Un lieu à découvrir. Vous êtes originaire de la Vienne ?
Non. Alors bon, moi je suis née à Paris, mais très vite ma famille s'est installée à Brive-la-Gaillarde et dans le nord du Lot. Mmh. Je considère que je suis de là-bas, même si finalement j'y ai passé moins de temps maintenant vu mon âge. Et il se trouve aussi que j'ai des origines suisses de mon arrière-grand-père paternel, ce qui m'a permis d'aller faire des études de musique en Suisse, que ce soit du violon classique et puis ensuite des musiques anciennes, et de commencer aussi ma vie professionnelle et personnelle là-bas. Donc j'ai vécu 13 ans en Suisse,
d'accord.
mais j'aime bien la France.
Un beau pays, certainement la Suisse, on parle
oui,
tout le
oui,
temps
oui,
de
oui,
comptes
aussi.
En banque et autres, mais non, certainement
non,
un
climat
agréable.
Non, mais tout le monde n'est pas riche, hein, faut
oui,
pas rêver.
Oui,
la
oui.
preuve, j'y étais. mais par contre, tout est très habité et très entretenu, mais il y a des super transports en commun, on peut aller au fin fond de la montagne sans bagnole.
Exactement, ça a dû vous changer hein, en arrivant en France.
Ça, hein. c'est, oui.
Vous êtes mariée, des enfants ?
Ah, mon enfant
Non, je dis ça parce que je crois que vous avez un compagnon qui est dans
oui,
le milieu. Hein.
Exactement,
eh oui, exactement,
qui est spécialiste de musique traditionnelle du Poitou.
Eh oui.
Voilà, qui peut-être un jour viendra à l'antenne.
Exactement, c'est pour ça que j'ai abordé le sujet.
Oui, oui, mais il n'y a pas de problème, ça me fait rire, c'est juste...
voilà, on l'invitera tout à fait avant la fin de la saison, avant, s'il le peut bien sûr,
oui.
avant fin juin pour venir nous accompagner. Il me reste encore quelques dates, on a encore le mois de mai, une partie du mois d'avril et puis le mois de juin. Ça me ferait plaisir d'avoir quelqu'un
oui.
justement qui parle de musique traditionnelle du Poitou. Il parle aussi des langues
voilà. Complètement, parce que voilà. Sa mère était dépositaire de plein de chansons. Elle les lui a transmises. Il parle encore avec les personnes de son coin qui connaissent cette langue. Et d'ailleurs, le Poitevin Saint-Onger, c'est ouais. une langue d'oïl. Donc oïl, ça veut dire oui dans cette langue. Et dans ce que je vais vous proposer tout à l'heure musicalement, il y aura aussi des chants de trouvères. Les trouvères, c'est ceux qui ont écrit des poésies chantées en langue d'oïl. On pense souvent aux troubadours,
oui,
mais ils ont
oui.
leur pendant en langue d'oïl. Et ici, on est hyper à la frontière. Donc, à la cour d'Aliénor, il y avait un peu plus de languedoc que maintenant dans le coin, je veux dire au niveau des langues régionales et des langues vernaculaires un peu soignées niveau poésie. Donc, troubadours, trouvères se côtoyaient à cette cour. Et maintenant, la langue régionale du coin est plus oïl que oc. Mais à Lussac-les-Châteaux, vous avez une frontière, par
d'accord.
exemple.
D'accord.
Ouais.
Eh ben, ça tombe bien, parce que c'est vrai que j'avais prévu de parler de troubadour, notamment
oui.
de Guillaume le troubadour, hein, qui est peut-être
oui.
le plus connu pour nous ici. Là.
Bah oui.
Mais voilà, on va aborder tout ça. Vous savez ce qu'on va faire ? On va faire une petite pause musicale. Enfin, une petite pause, c'est Jean-Jacques Goldman. On va se mettre dans le thème, tout simplement, avec Tourner les violons. Et on revient tout de suite après, le temps que vous installiez vos instruments. On va parler d'histoire de musique médiévale pendant toute cette heure d'émission. À tout
très
de suite.
Bien.
Thank you.
bien faite au château il y a bien longtemps. Les belles et les beaux nobles y au noble sang de tout le royaume en est venu dansant. Tourne les vies au tourne et s'en vont. Tourne les vies au long. Grande fête aux rameaux et Manon à 16 ans. Servant en ce château comme sa mère avant. Elle porte les plateaux lourds à ses mains d'enfant. Tourne les vies au tourne et s'en vont. Tourne les vies au long. Le bel uniforme en le beau lieutenant, différent des hommes d'ici blond et grand, le sourire éclatant d'un prince charmant. Tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les violons. Redouble la fête et les rires et les danses, Manon s'émerveille en remplissant les panses. Le bruit des lumières, c'est lui qui s'avance. Tourne les vieux, tourne et s'en va. Tourne les violons. En prenant son verre auprès d'elle, il se penche. Lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Tu es bien jolie dans un divin sourire. Tourne les vieux, tourne et s'en va. Tourne les violons. Passent les années dures et grises à servir, une vie de peine et si peu de plaisir. Mais ce trouble-là brûlant ses souvenirs. Tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux au long. Elle y pense encore et toujours. Les violons le décorent et ses mots de velours. Son parfum s'étend blanche les moindres. En prenant son verre auprès d'elle, il se penche, lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Juste quatre mots, le trouble d'une vie. Juste quatre mots qu'aussitôt il oublie. Tourne les vieux, tourne et s'en.
Nous sommes toujours sur REC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie d'Evelyne Moser, avec Péronnel d'ailleurs, hein, le nom d'artiste aussi, Péronnel. À quel moment justement, Péronnel, c'est par rapport à une période de votre vie, par rapport à...
Oui, écoutez, c'est en 2002, j'ai été engagée pour jouer dans une pièce de théâtre du XIIIe siècle de Adam de la Halle, qui s'appelle Le jeu de Robin et Marion. Et on m'a proposé le rôle de Péronnel, c'est une bergère. Et ça m'allait bien à l'époque. Enfin, ça me va toujours bien, même si ça fait un moment. Et puis, je jouais aussi d'un instrument. Ça avait été monté par l'abbaye de Royaumont. C'est un lieu pour apprendre au niveau musique à haut niveau. Et donc, il y avait une section médiévale. Et ça m'est resté. Après, c'est un personnage La définition du petit Robert me plaît moyennement parce que ça veut dire jeune fille sotte et bavarde. Mmh. bavarde peut-être.
Je souhaite,
sotte,
on fait
j'espère
des missions
pour pas. Toi. Mais c'est un personnage typique de la pastorale comique. Voilà.
D'accord, un personnage.
Comme Marion, comme Robin, c'est des archétypes. Quoi.
D'accord, j'allais dire un prénom qui pourrait nous venir du Moyen-Âge, pourquoi pas.
En oui, cas, oui,
il, a,
oui.
Il a une sonorité qui sonne bien par rapport à ça.
Ah, bah c'est un prénom du Moyen-Âge. Eh ben voilà, j'ai une chanson, de toute façon, c'est une pièce qui s'était écrite au XIIIe siècle, mais donc, j'ai une chanson qui s'appelle Prenons l'abre péronnel, prenons les baguettes du tambour et frappons et menons la danse.
On va parler de musique, justement, de musique médiévale. La musique est plus ancienne que ça. Hein. C'est une période, la période médiévale. Ça remonte à plus de 3-4 000 ans, je suppose, hein, les premières musiques.
Alors, ça dépend. Les premières traces de musique écrite, ça remonte à l'Antiquité. Ouais. Mais évidemment, on joue de la musique depuis la préhistoire. On a retrouvé des instruments dans des grottes. On est quasiment sûr que c'est des instruments de musique au niveau de certaines flûtes, etc. Par contre, la musique en Occident, ça ne se note que depuis le 9e siècle.
D'accord. Avant ça, on n'a pas de transcription, on n'a
pas
d'éléments.
Non, c'était transmission orale. Et ce qui se note depuis le 9e siècle, c'est de la musique religieuse, liée à la religion chrétienne. Et c'est des chants qui remontent à peut-être même avant Jésus-Christ. Enfin, j'exagère, mais au niveau des mélodies, elles ont dû se transformer. Évidemment, les paroles après sont liées complètement... au livre sacré. Et puis après il y a des choses qui restent pendant des siècles et qui s'écrivent de façon plus ou moins décryptable à partir du 9e siècle. Après c'est très facile à lire au 13e, 14e siècle. Et alors donc on a pas loin d'ici, vous savez, à Saint-Martial de Limoges, on a une abbaye qui avait une grande bibliothèque et tous les manuscrits de la notation aquitaine, donc on est au XIe siècle, étaient présents dans cette bibliothèque. Et c'est une façon de noter la musique qu'on peut, les spécialistes arrivent assez bien à la déchiffrer en faisant des rapprochements avec D'accord. les morceaux qui sont encore chantés au XIIIe et qui sont notés de façon plus précise au niveau des hauteurs de notes. Et ça nous renvoie, en fait, au IXe siècle, Charlemagne, on a des témoignages de ça, envoie des émissaires dans toute l'Europe pour unifier le chant d'église. Vous voyez, on unifie par la culture aussi. Et c'est amusant, il y a des témoignages, paraît-il, chez les Francs, la façon de chanter ressemblait à un sac de cailloux qui dévalait les escaliers, nous dit-on.
D'accord.
bon.
Oui, c'est vrai qu'on y pense, la période médiévale, c'est à la fin du 5e siècle hein, jusqu'au 15e.
Oui.
Donc, si on part du 9e siècle, le 9e siècle pour la retranscription, ça veut dire que pendant 4 siècles environ, on n'a pas trop de traces.
Si, si, si.
On a des traces quand
énormément de manuscrits. C'est juste qu'il faut des spécialistes. C'est beaucoup de chants d'église. Mm-hmm. Et les premiers chants profanes qui sont donc attribués aux troubadours et trouvères, ils sont écrits seulement fin 13e, début 14e, alors qu'ils étaient chantés 150 ans avant.
D'accord.
Donc, vous voyez, est-ce qu'ils ont été transcrits d'une façon fidèle ? De toute façon, ça s'est transmis oralement, ça a un peu évolué. Ou est-ce que ça n'évolue pas beaucoup quand ça se transmet oralement ? Ça dépend des musiques.
Exactement. Et ouais. pour les instruments de musique, on a des croquis, des iconographies qui nous ont ramené à ces instruments ou on est parti sur des bases ?
Alors, on a énormément de représentations sculptées dans les livres qui sont des enluminures aussi. Donc sculptées, que ce soit sur les églises, à l'extérieur, à l'intérieur, aux mains des jongleurs, aux mains des vieillards de l'Apocalypse. Mais ça peut être aussi sculpté sur des petits coffrets en ivoire, sur des stalles. Et donc, on peut faire des recoupements, parce qu'il y a des gens qui se sont penchés là-dessus, bien sûr. Uh-huh. Et on s'aperçoit qu'il y a un type, par exemple, moi je joue des instruments à cordes frottées, la vielle à archer, qui serait comme un ancêtre du violon, on s'aperçoit qu'elle a plein de points communs à travers l'Europe et à travers du 11e au 15e. On voit pas mal de choses qui perdurent. Et on a un traité du 13e qui nous explique, il y en a même deux, comment accorder l'instrument que j'ai apporté moi là.
D'accord.
Voilà. Si vous voulez, on peut parler de celui-là.
Ah oui, bien sûr.
Ce qui est amusant, c'est que donc ça, c'est une proposition de reconstitution par Christian Rau, c'est un luthier qui est établi d'ailleurs pas très loin d'ici, au Vanneau, dans les Deux-Sèvres. Et il se trouve que lui, il avait déjà étudié pas mal l'iconographie en Espagne, au XIIe et XIIIe. et qu'il a réalisé une vielle à archer en 2002, avec des façons de construire qui sont plausibles, avec le genre d'outils, le genre de bois qu'on pouvait avoir. Et à Poitiers, il y a 10 ans, on a découvert, sous l'enduit 18e de la cathédrale,
tout à fait,
des peintures murales de la deuxième moitié du 13e. Et il y a un ange qui joue d'une vielle à archer. Et c'est exactement la même que moi j'ai, mais que j'avais avant qu'on découvre les peintures.
D'accord,
c'est rigolo.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Voilà. Donc ça prouve qu'elle n'a pas été faite au hasard et que c'était un modèle quand même qu'on retrouvait dans la moitié sud de l'Europe.
Exactement. Une vielle, pour moi, quand je l'ai vue arriver, je me suis dit, tiens, c'est un violon. C'est vrai,
oui.
Pour le profane que je suis, c'est un violon. Le son est peut-être différent
Oui, ben, on va l'entendre. Alors, vielle, hein, en ethnographie et en ethnomusicologie, ça veut dire tout instrument à archer. Hein. Donc, bon... le violon, c'est une vielle. Le violoncelle, le violon chinois, tout ça. Vous voulez l'entendre ?
Ah oui, tout à fait. Oui.
Je l'apprends.
Eh ben, prenez-la. Ça me permet de rappeler que je suis donc avec Evelyne Moser, qui est donc spécialiste de la musique médiévale, donc qui va nous faire un petit morceau, un petit extrait de.
Vérifie que c'est bien accordé, hein, parce que
exactement.
C'est des cordes en boyau, tout ça. C'est pas mal. Alors là, j'ai un unisson, deux fois la même note. Ça, c'est dans le traité. Là, j'ai une quinte. Là, j'ai une octave qui va être bientôt juste. Corde en boyau de mouton. Hein. Rien d'extraordinaire, ça a été utilisé sur les violons jusque dans les années 1970. Hein. Je vous joue quelque chose ?
Ah, bien sûr, bien sûr.
Et là, je vais vous chanter une chanson en Languedoc. Qui est attribuée à une femme, mais on ne sait pas qui, c'est anonyme. Et elle dit qu'elle aimerait bien avoir son amie auprès d'elle dans les prés qui reverdissent pour lui redire les mots d'amour qu'il lui a dit quand elle était dans son lit. Quand veille le splats vers désir et paresse la fausse granada ad un caspen secundir d'amour scaisima alla grada. Per un poc non matuada, tant souvent souspire, quand non vit en far culada, se n'escol ferir. Ae, tutta noi souspire pes, et tressai tutta indormida. Per ok ve già il mes che il mio samix me resida. Adius com si ragarida, sai si devenges. Una noit per escarida cami sen venges. Ae. Et va y mener la grande journada. La chanson à mon ami, li porta senza contrada. Digatsri che mut magrada, con membre del sun. Quel mi dix conc mag basada sous mon pabellion. Ae. Ma chambra incurtinada fu en l'airun, dit ma chambra ben daurada fu en prison.
Magnifique, hein, j'ose même pas applaudir, je suis tout seul dans le studio, mais c'est vraiment magnifique. Bravo, bravo, bravo. On parle de musique médiévale depuis tout à l'heure, on était donc avec une vielle, un instrument magnifique, une reconstitution, donc qui se rapproche de la réalité, hein, de ce qu'on avait à l'époque. On a beaucoup d'instruments différents, justement, de cette période médiévale, qui ont disparu ou non. Hein, certains ont peut-être disparu, d'ailleurs, depuis.
Alors, on a des instruments à cordes frottées, comme la vielle à archer. On a des instruments à cordes pincées, comme le luth. Certains qualifient de luth roman, creusé dans la masse, hein, avec trois cordes, parfois une table en peau de chèvre. On a des instruments. Alors après, si on va vers le 15e siècle, le luth a une caisse plus ressemblante à celle du oud, par exemple, qui est le luth qui vient du Moyen-Orient, qui a influencé. On a des instruments à vent. Ça peut être des flûtes à bec, des flûtes doubles, qui peuvent être en os, qui peuvent être en bois. On a, après, il y a des différences de perce, qu'elles soient coniques ou pas. On a des flûtes à une main et pendant ce temps, on joue d'une percussion. Ça, ça existe encore dans plusieurs traditions, notamment au Pays Basque. On a des instruments à vent à hanches. Donc, je vous en ferai entendre qui sont, par exemple, les muses au sac ou les cornemuses, hein, avec ou sans bourdon. C'est-à-dire qu'on va avoir une panse d'estomac de veau qui va être huilée, nettoyée et qui va servir pour envoyer l'air dans le tuyau, ce qui fait qu'on a un son continu, on n'est pas obligé de respirer tout le temps, avec ou sans bourdon, c'est-à-dire comme ça, une note qui se tient en permanence et la mélodie qui se joue en plus. Parfois, il n'y a pas besoin, ça dépend du modèle. On a des instruments de percussion, évidemment, des petits tambours sur cadre. Il y en a à la cathédrale de Poitiers qui sont sculptés. Vous en avez un qui est carré avec une sorte de baguette. Dans les instruments à vent, vous avez une sorte de flûte de pan qui s'appelle fretel. On en voit notamment à Civray sur le portail d'entrée. On en voit une aussi à la cathédrale de Poitiers dans les Modillons, là en hauteur. D'ailleurs, à Sainte-Radegonde et à la cathédrale de Poitiers, on a des vielles à archer sculptées, mais qui ont une forme un peu plus de poire, comme on dit, à trois cordes. J'espère que j'oublie rien. On a des instruments à cordes pincées, d'ailleurs, j'en ai amené un ici. On a la guiterne aussi, ça c'est un peu plus vers le 14e. C'est comme, si je caricature, c'est un ancêtre de mandoline, mais enfin bon, ça vous donne une idée de la forme.
Oui, tout à fait, exactement. Oui.
Là, j'ai un psaltérion. Je ne sais pas si à un moment vous voulez l'entendre.
Bien sûr.
Si
bien
c'est
évidemment
le moment maintenant.
Ah
bah
si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ensuite, on parlera des différents styles de musique à travers l'Europe, voir si c'était uniforme ou non. Mais c'est vrai qu'on peut, écouter. Donc cet instrument qui nous vient de quelle origine ?
Alors, le psaltérion, c'est une sitar sur table. C'est un principe qu'on voit dans le monde entier. Hein. C'est des cordes qui sont tendues sur une caisse de résonance et il y a une note par corde. Bon, là, il se trouve que les cordes sont doublées, c'est-à-dire qu'il y a chaque corde à sa jumelle, mais elle pourrait être triple ou quadruple. C'est un instrument qu'on voit en Inde, sous le nom de santour, actuellement, hein, par exemple, avec des petites légères différences de forme. Hein. On le voit en Grèce, on le voit en Turquie, il sera plutôt pincé, il sera un kanoun. Vous aurez un instrument très voisin en Suisse, un instrument traditionnel qui s'appelle hackbrett. Vous aurez, alors il y a des chevalets qui partagent les cordes et ça fait plus de sons sur une corde que moi j'ai. Moi j'ai un modèle super simple, après je vous ferai entendre. On l'a aussi en Iran, il est frappé avec des baguettes. Ça ressemble au cymbalum qu'on entend dans les musiques tziganes, qui est en fait une grosse table avec plein de cordes tendues. Mmh. Mais ces instruments-là, c'est les ancêtres du piano et du clavecin.
D'accord.
Les ancêtres et à la fois parallèles, parce qu'il y en a encore au 18e.
Vous voyez que ça ressemblait un peu à une guitare mise à plat, la caisse de résonance, il nous manque juste le manche.
Mais c'est surtout que là, on ne peut pas modifier le son des cordes en posant ses doigts dessus. Sauf qu'il y a un système sur le kanoun qu'on voit en Grèce et en Turquie où il y a des petites tirettes qui permettent de tendre la corde et ça modifie sa hauteur. Je vais vous jouer un truc rigolo que je fais aux enfants.
Ah.
Voilà, ça expliquera tout. Cet instrument a un nom un peu compliqué. Il s'appelle le psaltérion. Psaltérion, mais d'où ça vient ? C'est de la même famille que psaume, psalmodie. Psaume, c'est des prières qu'on attribue au roi David. Oui, mais qu'est-ce que c'est la psalmodie ? C'est la façon un petit peu spéciale que j'ai actuellement pour vous parler. Parler et chanter en même temps. Et pourquoi ? Eh bien, peut-être que si je parle normalement dans une église, on comprend rien, tout est brouillé parce que ça résonne. Alors, pour faire entendre la parole divine, on parle ainsi. Il faudra essayer à la radio, monsieur Francis.
Oui.
Peut-être que les auditeurs vous entendront encore mieux, à moins qu'ils ne s'endorment.
un son magnifique. Et c'est vrai que ça, vous en parliez dans la chanson, vous parliez des psaumes. Ça nous permet de parler justement de la musique religieuse qui est faite de psaumes. On a justement cette, je veux dire, cette musique religieuse qui est plus faite par la parole que l'instrument de musique. Et ensuite, on a l'instrument de musique qui était amené par les troubadours. C'est un rejet au départ de l'Église, justement, ces instruments de musique
Alors, d'après ce que j'ai lu, des spécialistes qui analysent les sources, donc l'harmonie, la musique céleste, la musique suprême, c'est l'harmonie des sphères. Et donc, les planètes émettraient une sorte de musique inaudible, mais ordonnée, en bougeant les unes avec les autres, en interagissant. Et puis, la voix humaine serait une pauvre imitation, avec nos pauvres moyens humains, de ça, de cette harmonie des sphères. Et tout en bas de l'échelle, il y a la musique des instruments. Donc là, c'est pas terrible, ça imite la voix. Donc c'est vraiment ce qu'on peut faire avec les moyens du bord. En revanche, c'est quand même, ça interroge parce qu'on voit des anges qui jouent des instruments,
oui, tout à fait,
toutes sortes d'instruments. Certains disent que les cordes, ce sont des liens entre le monde terrestre et le monde céleste. Pourquoi pas ? On voit tous ces anges jouer ensemble sur certaines peintures, mais ça ne voulait pas du tout dire que tout le monde jouait ensemble au Moyen-Âge, tous ces instruments mélangés comme un orchestre. Ça, c'est plutôt un symbole. Les descriptions qu'on a, c'est chaque personne joue son instrument l'une après l'autre. Par exemple, dans les banquets, on a des descriptions comme ça jusqu'au 15e. Il y avait quand même aussi des ensembles d'instruments forts pour annoncer des sonneries. Mais ça, on voit ça plutôt au 15e. Donc après, c'est très différent. Vous voyez qu'on soit au 11e, au 15e.
Oui, la musique a évolué en fonction
de la culture. En plus, nous, on a beaucoup de traces de la musique, on va dire, bourgeoise, noble, quoi. Mais il y avait sûrement plein de bergers qui bricolaient des instruments et qui savaient très bien jouer de leurs instruments. Alors, vous avez dit amené par les troubadours. Les troubadours, c'est plutôt le gars super instruit qui écrit sa chanson, enfin oralement d'ailleurs, qui la compose dans sa tête. Et le jongleur, c'est celui qui interprète la chanson.
D'accord, le troubadour, j'en parlais, puisqu'on a dans la Vienne quelqu'un qui est Guillaume le troubadour.
Ah, bah oui, alors ça, c'est absolument la référence. Alors, il y a un autre troubadour dont on a entendu l'existence, Eble. Mais seulement, on n'a pas de trace de ce qu'il a écrit.
D'accord.
Guillaume IX, on a un brin de mélodie. Et sinon, ces textes, on en a quelques-uns. Ils sont dans des manuscrits qui remontent à bien après sa mort. Donc, il y a certaines personnes qui arrivent à proposer des mélodies qui vont bien. Alors, on peut aussi, là, on parle beaucoup musique médiévale, on peut prendre des textes de troubadour et en faire quelque chose de complètement contemporain.
Exactement,
on peut décider de faire une instrumentation moderne, électronique, on peut broder sur les mots qui ont leur sonorité, etc. Donc il y a plein de façons de s'emparer de ça.
Oui, c'est Pascal Obispo, d'ailleurs, qui il y a quelques années a fait un disque par rapport à cela.
Tout à fait. Et puis vous avez des musiciens expérimentaux qui font ça, qui sont un peu moins connus, mais c'est de la poésie, avant tout.
On a passé tout à l'heure une chanson, c'était Jean-Jacques Goldman, ça n'a rien à voir avec l'époque médiévale, cette musique-là, c'est plus une orchestration, on va dire, mais c'est vrai que ça rappelle un peu ces sonorités tout de même ou
Bah écoutez, alors, pas du tout au niveau des sonorités, parce que ce n'est pas les mêmes genres de gammes.
Ouais.
Moi, au Moyen-Âge, on est sur des gammes, c'est pas majeur et mineur, ça s'appelle modal, il y a plein de modes. Mais par contre, on pourrait dire que dans l'esprit, c'est de la chanson. Et ceux qui ont emmené dans notre culture française les chansons, c'est les troubadours et les trouvères. Il y avait aussi des chansons en latin profanes par des personnes, des clercs qui vivaient par exemple dans l'entourage de Notre-Dame de Paris. Il y avait des chants sensuels en latin. On n'a pas toujours la musique. Au XIIe siècle, on en a quelques-uns. Voilà. Donc tout ça, ça s'influence, le profane, le sacré. La personne qui est claire, elle est peut-être un membre de l'Église, mais elle a aussi une vie, on va dire, peut-être amoureuse, même platoniquement. Voilà. Donc, et puis, les airs qu'on a chez les troubadours sont très apparentés à des airs qu'on a pour des musiques qu'on utilise à l'Église. D'accord. C'est le même genre.
Et on avait la même uniformité dans toute l'Europe. Nous, on devait avoir des styles différents. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on regarde la musique, on peut avoir du rap, du rock et tout ce qu'on veut. C'était pareil, on avait différentes...
Alors, il y a des spécialistes qui arrivent à distinguer les différences, notamment dans le chant d'église, même si ça a été unifié. Il y a quand même des petites tendances de tonalité, mais il faut avoir l'oreille très aguerrie. Par exemple, ils vont vous dire qu'en Allemagne du XIIe siècle, on utilise beaucoup le mode de mi. Ça sonne « non, 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 non ». Ça sonne un peu mineur comme ça. Et bon, bah, alors que tu pourrais penser que ça avait « non ». Alors attendez, est-ce que je l'ai très mal fait, excusez-moi, c'est une erreur. « Non, non, il faut que je le prenne mon instrument, je suis désolée, les spécialistes, pardonnez-moi. »
Prenez l'instrument, je rappelle.
Je me suis trompée de mode, excusez-moi.
Je rappelle qu'on est en direct, hein, donc...
Ouais, c'était pas si mal. C'est qu'on a le demi-ton au début. Et donc ça sonnerait plutôt à nos oreilles andalous. Sauf que c'est vachement utilisé. C'est un exemple, un petit exemple qui me vient là.
Oui, on en utilise encore justement.
Par Hildegarde de Bingen, la fameuse compositrice du XIIe siècle, qui a écrit plein de chants d'église extatiques, enfin qui sonnent extatiques, mais qui ressemblent énormément à tout ce qu'on fait à cette époque-là pour l'église.
Hein. Exactement, qui était une précurseuse ou précurseur ou
non,
je sais pas.
Non, elle est dans sa mouvance.
Oui, complètement.
Alors, elle a son style mélodique un peu décelable, mais ça reste dans un style. Si vous écoutez des compositeurs de l'époque de Mozart, ça va sonner un peu comme du Mozart, même beaucoup. Mm-hmm. Mais il y a un petit truc en plus.
Hildegarde, c'est une religieuse véritablement. Donc
oui,
c'est
tout à fait. Mais alors après, il faut voir à l'époque, on est une personne de famille noble, qu'est-ce qu'on a comme destinée, quoi.
Ah oui, tout à fait. Ouais.
Soit tu te maries, t'as plein d'enfants, soit tu te planques et tu vas dans un couvent, quoi. Et t'essayes de t'exprimer, de faire des recherches...
On pouvait utiliser la musique un peu comme un blues hein, pour les populations noires qui ont été déportées. Ces jeunes femmes qui étaient mises dans des couvents, ça permettait.
Elle était mère abbesse, donc c'était quelqu'un d'un quand même très haut placé qui pouvait se permettre des recherches théologiques. Bon, d'après ce que j'ai lu des spécialistes, encore une fois, comme elle n'était pas si haut placée et que c'était une femme. Elle ne pouvait pas tout réformer, donc elle disait qu'elle avait des visions. Comme ça, c'était bon. Elle pouvait placer ce qu'elle voulait.
Au niveau de la musique aujourd'hui, vous avez des soutiens? Parce que c'est vrai que la musique médiévale, c'est quand même assez particulier. Le public est assez, on va dire, limité, je ne sais pas, mais en nombre. Vous avez des subventions, des aides par rapport à ça pour la transmettre?
Il y a quelques ensembles. Moi, j'ai joué un bon moment dans un ensemble basé à Tours qui s'appelle Diabolus in Musica. Qui a été beaucoup aidé par toutes les instances pour enregistrer des disques, pour faire des tournées, etc. Il y en a un autre qui s'appelle Alla Francesca, qui est sur Paris, qui est très très bien aussi, ça fait de longues dates. Écoutez, ça se perd beaucoup.
Ouais.
Moi, je n'ai jamais eu l'occasion personnellement avec mes ensembles de demander des subventions. Ça me dépasse, c'est trop compliqué.
C'est vrai que c'est...
Je compte sur les gens qui veulent bien me faire jouer. donc déjà à nouveau merci l'abbaye de Saint-Savin.
Oui, tout à fait.
Je joue parfois pour présenter mes instruments, vous savez, au musée de la musique de la Philharmonie de Paris. D'ailleurs, j'y suis demain. Et puis parfois, alors vous savez, il existe ce qu'on appelle les fêtes médiévales. On entend de tout comme musique. Hein. Et puis ça dépend de l'éthique des organisateurs et des sous qu'ils ont. Parce qu'ils vont avoir besoin de prendre des groupes qui vont mettre de l'ambiance, qui vont s'inspirer de quelques mélodies plutôt renaissance, qui peuvent être un peu entraînantes. Mais si vous engagez un groupe pour jouer de la musique extatique d'église dans la fête médiévale, ça ne va pas être suffisant pour... Il y a des gens que ça va intéresser. Être bien pour l'église, il y en a une belle dans le village, mais... ou la ville, ça ne suffira pas. Et il faut des choses très sonores qui emmènent les gens. Donc, le cornemuse, ça va très bien. Il y en avait à l'époque, etc. Et parfois, il y a aussi des ensembles amateurs qui font le job, on va dire. Peut-être personne voit la différence. Moi, je la vois, mais bon.
Bien sûr, c'est
et
normal.
Donc, en fait, c'est hyper sinistré. Moi, je m'en sors parce que je fais plein de choses. Mais là, je lisais il n'y a pas longtemps le post d'une collègue sur Facebook qui... Elle est désespérée, quoi.
Oui. Exactement. Je voyais ce matin, justement, sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui postait une publication par rapport à ça, en parlant des films, en parlant de la musique, en parlant des livres aussi, hein, en disant que si vous supprimez les films, si vous supprimez les livres, si vous supprimez la musique, ben, en fait, il ne nous reste pas grand-chose dans la vie.
Non, c'est la seule chose qui a un intérêt.
Hein. Exactement. Donc, la culture a très peu de place par rapport à l'importance, en fait. Hein. Ouais. On l'oublie souvent, quoi.
Mais après, bon, voilà, c'est qu'il y a la culture imposée. Vous savez, et puis avant, je sais pas, est-ce que avant c'est maintenant, il y avait plus une culture locale. Si vous invitez des musiciens de musique traditionnelle, c'était un ciment de la société. Et maintenant, on nous impose un ciment de la société, donc ça correspond peut-être pas à tout le monde, quoi. C'est surfait.
Exactement, ouais. Ça me permet de rappeler qu'on invitera votre compagnon pour parler gentil. Justement de musique locale et de ciment de la société Poitevine. On reparlera à ce moment-là de toute l'aventure Poitevine, hein, de l'histoire de notre beau département. On a peut-être un petit extrait encore de musique à passer, de
oui.
Quelque chose qui pourrait être...
Alors, est-ce qu'on reste dans le Moyen-Âge ou est-ce que vous voulez un truc un peu plus... J'ai mon violon. Ouais. Attendez, je vais vous faire entendre un son rigolo.
Allez-y.
Ouais, c'est où ?
Voilà, je rappelle qu'on est
il
en direct.
Il va falloir deviner de quel instrument il s'agit et ça a un lien avec le Poitou.
Je rappelle qu'on est en direct avec Evelyne Moser, hein, qui est conteuse, qui est en même temps musicienne, hein, qui intervient régulièrement à l'abbaye de Saint-Savin, abbaye de Saint-Savin qui est ouverte tout le week-end et qui est gratuite un dimanche pour nos amis de Saint-Savin. Ils le méritent bien, ils ont bien de la chance, mais c'est vrai que cet endroit est à visiter. N'hésitez pas à aller sur le site internet et puis surtout à vous déplacer, visiter l'abbaye avec le réfectoire des moines, avec les cellules des moines et puis la fresque, bien évidemment, l'abbatiale.
Alors, j'espère que c'est pas trop fort. On va voir. Je rigole en même temps. Alors, qu'est-ce que c'est ?
C'est la bonne question. Alors moi, j'aurais appelé ça un flutio. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça peut être.
Alors, il y a une anche.
Il y a une anche.
Donc, ça veut dire qu'il y a un morceau de roseau qui est taillé, qui vibre. Ça, c'est un principe clarinette, on va dire. Hein. Et ça, dans le Poitou, on appelle ça une pibole. C'est, alors, vous pouvez prendre... Alors, je joue le roseau, là. Voilà. Je le remets sur son petit tuyau en sureau. Ça, c'est une copie de ce qui a été trouvé à Grenoble, à Charavine. On en a dans le monde entier, des trucs comme ça. En Amazonie, en Inde, chez les bergers de Sardaigne, dans le Poitou... dans l'alboca, c'est un instrument qui existe encore au Pays Basque. C'est ce qu'on a dans les premières cornemuses.
D'accord. Je me rappelle justement du sureau. Vous parlez du sureau.
Oui.
Quand j'étais enfant, on allait couper un bout de sureau. On le creusait parce que c'était à l'intérieur, c'était facile à creuser. On faisait des instruments de musique, des petites flûtes.
Eh ben
des
c'est ça.
Ah ben vous voyez.
C'est... Alors après, il y a aussi le côté sifflet. Ça dépend. Ça c'est un côté hanche. Mais si vous mettez un petit morceau de bois, ça va faire un son plus de flûte.
Ouais,
et là, on a
ça.
Un son. Pincé.
Ah ben, donc,
ouais.
Dans ce cas, ok.
Et donc, à l'abbaye de Saint-Savin, je joue d'un instrument similaire. Ce n'est pas celui dont j'ai joué, parce qu'il faut venir à l'abbaye pour l'entendre, le vrai.
Exactement.
Voilà, je
ne
vais pas tout dévoiler. Et qui a un lien avec les Vikings. Qui dit Viking, dit Drakkar. Qui dit Drakkar, dit abbaye de Saint-Savin. Actuellement, c'est son iconographie emblématique.
Exactement, tout à fait. Ouais. Un lieu à visiter, vous y êtes assez régulièrement, je le
oui,
disais.
Et d'ailleurs, j'y suis en fin avril, là, et j'y suis le 1er mai. C'est une date facile à retenir, d'accord ?
Oui, c'est ça. Puis j'ai vu que vous étiez pas mal d'endroits différents. Hein, vous faites pas mal de... On peut retrouver
oui.
Justement sur un site ou sur votre page Facebook.
Oui, je mets à jour. Ouais, sur ma page Facebook, je mets à jour. Et alors, d'ailleurs, à Chauvigny, il va y avoir, vous savez, le festival organisé quand on parle du loup.
Oui, tout
par
à fait.
Le loup qui zozote.
Exactement.
Et ça va être aux alentours de mi-août. Et vous pourrez me retrouver, enfin si vous me reconnaissez, parce que je serai cachée. Je vais animer une grande marionnette. Ça va être le 13 et le 15 août. Ambulante, hein, qui a une tête de noble dame un peu sorcière, assez grande là, qui va vous interpeller dans la rue, qui va vous poser des devinettes, qui va lire votre avenir. Ah oui, attention.
Oui, tout à fait. Oui.
Donc, elle s'appelle la sorcière Grimhild, voilà.
Et là, c'est un festival donc, qui se déroulera en pleine rue, on va dire, par le loup qui zozote.
Il y a aussi des caves, il y a aussi dans leur théâtre, il y a aussi au Clou, je pense. Enfin, c'est leur 20e anniversaire du festival, quand on parle du loup.
Ça fait, je crois que le papy hein, qui fait ses émissions le samedi matin a prévu les invités.
Ah bah j'espère, parce que c'est des acteurs indispensables de la vie à Chauvigny.
Exactement, associés d'ailleurs à REC 103.7, on les a régulièrement chez nous pour cela. Au contraire, c'est toujours intéressant. Au niveau de la fête médiévale, vous serez aussi invité à un moment ou à un autre, parce que c'est vrai qu'on a la collégiale qui est magnifique.
Je ne connais pas les organisateurs, je ne les connais pas. Je crois que c'est la ville.
Alors c'était la ville,
c'était
oui.
C'était la ville, mais ça a peut-être changé, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les petits papiers, voilà.
Écoutez,
mais s'il y a encore une place pour moi, si quelqu'un veut un concert de musique médiévale dans l'église,
exactement.
Ishbinda, je suis là, voilà.
Si Madame le maire, Madame Nelly Garde-Afrique
enfin,
nous
écoute.
Enfin,
si je suis libre
hein.
Ce jour-là, parce que j'ai peut-être un autre truc. Hein.
Exactement, oui, tout à fait. Oui. Bah, j'ai vu que votre planning, votre agenda était bien rempli, en tout cas. Hein. Mm. C'est facile de trouver des dates, justement, sans agent, vous n'avez pas besoin d'agent, puisque vous avez une réputation aujourd'hui, mais c'est facile de trouver des dates encore, quand même.
Mais c'est vraiment parce qu'on connaît des gens au bout d'un moment, mais je plains ceux qui commencent, franchement.
Oui, c'est ça.
C'est de bouche à oreille. Et puis après, bon, il se trouve que moi, j'ai des compagnies qui me font tourner. Mais ce qui est hyper dur, c'est si vous aviez votre propre projet et que vous ne viviez que de ça. Et que vous vouliez absolument vendre votre concert avec vos partenaires et tel programme. En fait, il faut s'adapter à ce que demandent les lieux. En prix, en effectif. Et par exemple, on va jouer à Mel avec mon ensemble. Et ben, on va s'adapter à l'architecture, à l'histoire du lieu. On va choisir des morceaux en conséquence.
C'est en même temps ce que viennent chercher les gens aujourd'hui, hein, avoir un peu l'ambiance.
J'ai joué aussi à la Réau, à l'abbaye de la Réau.
Oui,
vous connaissez,
magnifique endroit, bien sûr.
Ils ont refait le toit de l'abbatiale. Donc, c'était l'occasion de jouer pour les journées du patrimoine. J'ai joué là-bas. C'était un très bon souvenir aussi pour moi.
Un bel endroit à visiter. Moi, je l'ai visité. Il n'y avait pas encore le toit. Donc, il y a quelques
oui,
années
ça
maintenant.
Oui, ça fait très peu de temps qu'ils l'ont refait. Donc, il faut aller voir aussi.
Exactement. Un travail exceptionnel hein, sur l'abbaye de la Réau dans le sud de Vienne. On en parlera peut-être d'ailleurs la semaine prochaine, puisque j'aurai Béatrice Guillonnet, qui est la responsable culture et animation patrimoine pour la CCVG, la communauté de communes de Vienne-Gartempe. On parlait de musique médiévale. On a vu depuis le 15e siècle, hein, qui est la fin de l'époque médiévale. Aujourd'hui, on continue quand même à avoir cette musique qui a traversé les temps. On s'inspire toujours de cette musique.
Oui, ça a toujours inspiré. Alors, les textes des troubadours et des trouvères, en langue d'oc ou en langue d'oil, font toujours rêver. Ça parle d'amour courtois essentiellement. Mais pas que. Il y a un peu de politique de temps en temps. Parfois aussi, il y a des chansons profanes à la Vierge. Et il y a toujours des gens qui se penchent là-dessus, sur la reconstitution des instruments. On avance un peu. Mais il y a tellement eu de bonnes choses de faites là, dans les débuts du 21e, là, qu'on patauge un peu. Pour certains instruments, on n'arrive pas à trouver certaines solutions. Voilà.
D'accord, parce qu'on voit, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup s'en inspirent, que ce soit dans les jeux vidéo, on voit beaucoup
oui,
de...
Oui, j'ai un projet là-dessus,
ah bah vous voyez,
mais j'en dis pas plus, mais c'est parce que je pense que c'est top secret, mais j'ai un collègue qui travaille là-dessus, du côté de Turenne, et je vais participer.
Exactement.
Et ils veulent des vrais sons, ils veulent pas des trucs de machine, et ils veulent que les instruments du 12e, pas un truc, du 16e, ça fera bien l'affaire, non.
Un beau projet donc de jeu vidéo. Donc.
Le son d'un jeu vidéo.
Et alors ça, on a des films aussi qui utilisent pas mal le
oui,
côté
médiéval. Oui, mais alors parfois, c'est la musique, ils prennent... Alors si c'est de la musique composée pour l'occasion, ça c'est des choix, il n'y a aucun problème. Et parfois, ils pensent mettre de la musique de l'époque et ils vont te sortir un truc du 16e pour quelque chose qui se passe au 12e. Parce qu'ils trouvent que ça va mieux.
Oui, c'est ça, la sonorité,
pour plein de raisons,
le rythme.
Voilà, c'est des raisons esthétiques aussi ou de rythme du... Mais vous savez, ce qu'on sait de la musique du 12e et 13e, c'est pas grand-chose. On a énormément de textes de troubadours et de trouvères, on a énormément de musique d'église, mais que jouaient les gens chez eux?
C'est ça, exactement.
Que jouaient les paysans? Aucune idée.
On le voyait tout à l'heure avec ce petit bout de sureau, justement, on avait certainement des instruments.
Idée, oui, enfin, on a des idées du genre de gamme qu'ils utilisaient, les instruments qu'il pouvait y avoir. Est-ce qu'ils jouaient super bien? Il y avait des gens sûrement qui jouaient super bien.
Sûrement, oui, bien sûr.
Donc, on peut se baser sur... Là, l'autre jour, j'écoutais une personne en Espagne des années 80 qui joue d'une vielle à archer, là, comme la mienne, et qui chante un truc. Eh ben, c'est très rustique et tout ça. Ça se trouve, ça sonnait comme ça. Moi, j'en sais rien.
Exactement. On a d'autres instruments. On avait un instrument tout à l'heure, je crois, avec une peau d'une vessie, hein, c'est ça?
Oui. Ça c'est avec une vessie, ça marche, ou avec une panse de veau, c'est un instrument avant. J'ai pas parlé d'un instrument que j'ai pas pu amener, c'était un peu encombrant, qui s'appelle l'orgue portatif.
Ouais.
C'est un petit clavier relié à des tuyaux, c'est comme une flûte de pan géant, si vous voulez, géante, avec un soufflet qu'on actionne de la main gauche et le clavier, on joue de la main droite, ça se pose sur le genou. Après, on l'a posé sur une table. C'est quelqu'un d'autre qui a actionné le soufflet. Ça, c'est plutôt vers le 15e. On avait les deux mains libres. Il y avait quand même des orgues dans les églises plus grands. Hein. Ça, ce dont je vous parle, c'est un orgue pour jouer à la maison.
Oui, voilà, pour porter. Voilà.
Donc, il y avait aussi des orgues. J'ai oublié. Et j'espère que je n'ai pas oublié des instruments. Il y en avait quand même beaucoup.
Oui.
et puis, des clinés aussi.
C'est vrai qu'il y a une diversité de musique, de sons différents. On a l'impression, c'est vrai que dans notre mémoire, quand on parle de l'Irlande, par exemple, on va voir la cornemuse ou autre, l'Écosse, la cornemuse. Quand on va dans le sud de la France, on aura plus des sons un peu plus aigus. C'est vrai qu'on fait une sélection par rapport aux régions. C'était un peu le cas déjà à l'époque, ou c'est véritablement l'évolution qui a fait que...
Alors, les instruments étaient assez aigus au Moyen-Âge, de toute façon, parce que pas très grands.
D'accord.
Vous avez, par exemple, les harpes, elles ne sont pas si grandes que ça sur l'iconographie. Donc, ça donne des longueurs de cordes pas grandes, donc des notes pas graves. Et pareil, les vielles à archer, là, ce n'est pas si grave que ça. Donc, c'est au fur et à mesure, les instruments sont agrandis. On a eu besoin de graves, peut-être pour faire des instruments avec du grave, des voix graves qui se superposaient avec des voix de plus en plus aiguës. Mm-hmm. Voilà.
On a peut-être un petit extrait d'un instrument, quelque
oui.
chose qui...
Vous voulez un peu de violon baroque?
Ah oui, je veux bien, oui, tout à fait. Oui. Voilà, je rappelle qu'on est en direct avec Evelyne Moser, hein, qui est musicienne, donc médiévale. Voilà, qui nous fait
vérifie
donc,
si c'est juste.
Plaisir de nous interpréter en direct.
C'est pas juste.
Ah.
J'accorde mes cordes là. Tiens, je vais vous faire une danse de la Renaissance. Ça vous va? Donc on est au 16e.
Eh ben on y va. C'est... Et puis après je vous dirai un petit message que j'ai reçu, tiens, d'un SMS.
Ah bah d'accord.
Deux petits messages que j'ai reçus. Alors le premier, c'est mon épouse, hein, qui me dit simplement qu'elle aimerait m'entendre psalmodier. Donc par rapport à tout à l'heure, hein, on n'en est pas encore là. À mon avis, il y a pas mal de choses à faire. J'ai un monsieur, hein, qui m'a envoyé un petit message, c'est Christophe, qui me demande justement où est-ce qu'on peut apprendre à jouer de tels instruments. Est-ce que dans la région, il existe une école ou des gens qui vous reçoivent pour apprendre?
Moi, je peux aider, mais ça dépend lesquels. Oui, alors, ils peuvent s'inscrire. C'est un peu de l'éducation populaire, parce que chacun va aider l'autre. Il y a un groupe de musique médiévale à Noyers-Maupertuis, qui dépend de la fête médiévale.
Oui, magnifique fête.
Que j'ai moi-même mis sur pied quand j'étais enseignante à la passerelle, à l'Émile. Et maintenant, ils volent de leurs propres ailes. Donc, il y a des gens qui jouent des instruments à vent, des instruments à cordes frottées, des percussions. Ils chantent et ils peuvent peut-être se coopter les uns les autres. Et maintenant, c'est super, ils se débrouillent.
Et oui, une belle fête médiévale, celle de Noyers-Maupertuis. Hein, c'est vrai, tous les ans, on est sur la fin, au début d'été, peut-être fin juin, je crois, ou au mois de mai peut-être.
Ils font tout le temps. Plein d'événements. Alors, il y a un mois de mai. Je ne sais plus, mais voilà.
On rappelle que vous aussi, hein, vous avez pas mal de choses, un agenda qui est assez bien rempli, qu'on peut retrouver donc, sur Facebook. On tape Péronnel, on tape Évelyne Moser,
les deux.
Les deux.
Et puis Abbaye de Saint-Savin, absolument. Mais il y a tellement de dates. Il y en a en avril, si je me souviens bien. Ah, j'aurais dû apporter
exactement
les vraies dates.
Ouais.
Le 1er mai, le 15 mai. Et après, tous les vendredis, à partir de mi-juillet, jusqu'à genre 20 août, quelque chose comme ça. Et plein d'autres fois sur la Vallée des Fresques.
Exactement.
D'autres jours que le vendredi.
On compte sur Jean-Luc Dorchy, hein, je disais, le président de, directeur pardon, de l'EPCC,
oui,
l'organisme, hein, pour faire la publicité de cet agenda. On sait qu'il le fait très bien.
Et sur Isabelle. Hein.
Et sur Isabelle, bien sûr. Isabelle Soulard, qui est historienne, qui adore le secteur et puis qui fait énormément, qui se bat sur toute la France. C'est vraiment une personne importante au niveau de la culture sur la Vienne et puis de l'histoire. Hein.
Oui.
Voilà. Isabelle qui sera peut-être là d'ailleurs la semaine prochaine, hein, qui va venir en tout cas nous faire un petit coucou. Elle ne restera peut-être pas pendant toute l'émission, mais elle a prévu de jeter un petit coup d'œil. Au niveau des instruments, on l'a dit, on avait donc des projets qui étaient portés par un instrument de musique. On a aussi tout ce qui était psaume, donc porté par la voix.
Oui. On
avait des poèmes, des choses comme ça à l'époque
médiévale
aussi.
Oui, alors tout ce qui est troubadour, trouvert, c'est des poèmes.
Des poèmes mis en musique ensuite.
Allez, je vais vous faire un tout petit peu de la fameuse célèbre chanson attribuée à Richard Cœur de Lion. Donc, l'un des fils d'Aliénor.
D'Aliénor, bien sûr.
Je vous fais le premier couplet en langue d'Oil et à nouveau, vous l'entendrez en langue d'Oc. On a le temps, je crois qu'on a
le temps. Oui, tout à fait, allez-y. Oui.
Donc, ça veut dire « Jamais un prisonnier ne dira son propos adroitement, mais il peut avec peine composer une chanson. Il est prisonnier. J'ai de nombreux amis, mais leurs dons sont pauvres. Honte à eux, si pour voir réunis ma rançon, je reste deux hivers prisonnier. » Langue d'Oil. Jeanne, une en prie, ne dira sa raison adroitement, sensi comme dolence non. Mais par confort peut-il faire chanson, moutée d'amis, mes pauvres sont lidons, ont y avronce pour ma réanson. Suis ces deux hivers pris. En langue d'oc. Già nullum prêche, nun dira sa razun adrechament, si comam dulens nun. Mas per cunort duum faere cansun. Prunai damis, mas poere sun lidun. Anc taluressi per mares enson. Soi sai dusive prec.
Magnifique poésie, et donc on le disait, de Richard Cœur de Lion, le fils donc d'Adrien Rakitaine, qui est inhumé, en tout cas il y a le sarcophage, ou je ne sais pas comment ça s'appelait d'ailleurs, qui se trouve
à Fontevraud.
Exactement, Fontevraud, oui. C'est ce que j'allais dire, du côté juste après Loudun, c'est pour celles et ceux que ça peut intéresser, l'abbaye fontevriste, hein, créée par Robert d'Arbrissel à l'époque. Je dis ça parce qu'on a quelques-unes dans la Vienne, des prieurés en tout cas, on a la ville Salem, pas très loin de Saint-Savin, et on a aussi l'ancien prieuré Fontevraisse de l'Appui, au cœur du triangle d'or du Poitou, entre Chauvigny, Anglesaint, Saint-Savin, des secteurs vous connaissez bien forcément, qui sont inspirants, que ce soit Chauvigny, la cité médiévale, que ce soit Anglesaint avec son roc aux sorciers et puis sa forteresse, ou alors bien évidemment l'abbaye de Saint-Savin. Ça, c'est des lieux magnifiques. Je vous remercie en tout cas d'être venue, Evelyne.
Merci beaucoup, Francis.
On remettra sur le site tout ce qui est programme. On vous réinvitera peut-être en compagnie de monsieur, qui viendra lui nous parler de musique traditionnelle et d'histoire du Poitou. Vous parlez aussi
Moi, non. Je ne suis pas tombée dans la marmite quand j'étais petite.
C'est vrai que c'était assez compliqué.
Ça se perd malheureusement. Même s'il y a l'université, il y a de quoi apprendre, mais... Ouais.
Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte en musique, tout simplement. Vous reprenez un instrument, celui qui vous convient. Et puis, voilà, on se quitte à ce moment-là. Moi, je vous donne rendez-vous, en tout cas, à toutes et tous, la semaine prochaine, en compagnie d'Isabelle Soulard, de Béatrice Guillonnet. On parlera de la Gartempe. On descendra la Gartempe tranquillement à travers la Vienne, à travers son histoire. Voilà pour le programme. Merci à Evelyne Moser. À bientôt. Thank you.
les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.